Vous écoutez On lit pour vous.
Revendiquer son identité queer à travers la littérature. Un texte d'Aurore Mbonimpa, paru le 17 mai 2024 dans Le Voyageur de Sudbury. La session French Kiss du Salon du livre du Grand Sudbury, qui a mis en vedette une causerie bilingue le samedi 11 mai, a permis de débattre sans tabou sur les thèmes queer. Quatre artistes queer multidisciplinaires, Xenia Gould, poète trans-acadienne, Nix Lewis-Schmidt, poète sud-buroise anglophone queer, et Sydney Ejele et Kama La Mackerel ont parlé du processus de traduction du livre Pump, intitulé Le Marais en français. Les quatre artistes ont commencé la conversation avec une introduction sur leur mode de vie, à savoir vivre de façon fantaisiste. C'était une manière de nous faire entrer dans leur monde littéraire. Un monde qui reflète la transidentité et l'identité queer dans leurs œuvres, ainsi que l'inspiration que leur procure leur communauté dans leurs écrits. Nix nous partage que l'identité queer est au cœur de ses écrits. D'ailleurs, le titre du livre « Claimings and Other Wild Things » est tiré d'un de ses poèmes intitulé « Claimings », qui est une série de poèmes interconnectés qui décrivent son parcours pour revendiquer son identité queer. Il y a quelque chose de si intrinsèque d'être queer et s'est imprégné dans tous ses écrits. Originaire de Sudbury, Nix a commencé l'écriture de son recueil à l'université et s'est demandé comment concilier la personne que vous êtes à l'université avec la personne que vous êtes à la maison. Nix n'a pas réalisé et accepté le fait d'être queer avant d'arriver à l'université. En grande partie, en raison de ce syndrome de l'imposteur qui donne à penser qu'on veut être queer parce que c'est cool. Il a fallu à Nix beaucoup de temps pour accepter son identité et son appartenance. Avec son coming out, Nix a pu s'ouvrir à de nouvelles sous-communautés. Le chiac ou la structure d'un dialecte utile. Quant à Xenia, qui a causé dans un code switch inébranlable, a beaucoup parlé du chiac et de la façon dont la structure du dialecte était utile et instrumentale dans leur transidentité. La structure du chiac ne genre pas souvent. « Il y a something de beautiful », dit Xenia. De pouvoir écrire dans une langue tellement folklorique, acadienne, et y ajouter sa perspective queer, trans, non-binaire, est un acte décolonial. Pour Xenia, l'écriture était la réponse viscérale à un changement extrême dans sa vie. Déménager à Moncton a été une partie monumentale de la découverte de soi de Xenia. À Moncton, lorsque Xenia se présentait sous des allures flamboyantes, personne n'osait le faire. Se retrouvant l'unique personne à le faire, écrire était sa façon de donner un sens à tout cela. Il fallait que ça sorte dans mes petits calepins, dans mes notes sur mon téléphone. Je m'enregistrais tout en vivant l'expérience d'être la seule personne dans sa communauté qui s'exprime dans sa transidentité, confie l'artiste. L'écriture a rendu tangible qui est Xenia. Occuper les entre-espaces. Artiste multidisciplinaire, Kama La Mackerel a trouvé qu'il y a quelque chose de fondamentalement trans dans les espaces hybrides, à savoir son milieu professionnel. Ayant grandi dans des environnements interethniques, multilingues, il était naturel pour l'artiste d'occuper des entre-espaces. Camus a grandi dans un contexte très différent. « Je savais qui j'étais dès l'âge de 8 ans. » Son identité était reconnue dans sa culture des îles Maurice. Donc, Camus a pu se reconnaître et se retrouver là-dedans. Camus a quitté les îles Maurice à 17 ans pour vivre en Inde pendant 5 ans. À son arrivée au Canada, Camus avait déjà un sens de soi très bien établi et fondé sur sa propre personne. Camus n'a jamais écrit pour se retrouver, mais ses écrits sont un genre de pont entre sa personne et le reste du monde, c'est-à-dire l'Amérique du Nord. Au Canada, Camus ne peut pas séparer ses origines et sa transidentité. C'est trop interconnecté. Écrire, pour l'artiste, c'est revendiquer sa place dans la société. Voilà mon histoire, tu ne l'as pas encore entendue. L'entre-espace dans sa transidentité est lié aussi à sa pratique de la traduction littéraire. Dans l'acte de la traduction, Camus doit occuper un entre-espace en tant que traducteur. Tout ce que Camus fait est lié à son identité queer et trans. Sa démarche est potentiellement politique. Dans sa traduction du livre « Pump », Camus nous raconte que sa propre manière de traduire fait en sorte qu'elle s'insère dans la traduction. Et qu'en travaillant sur le projet du livre de Sydney, Camus sait que ses choix reflètent sa façon d'être avec celle de Sydney. On peut lire un ouvrage à la fois en anglais et en français. Il y a une richesse parce qu'il y a des choses qui ont été ajoutées et des idées qui ont été délaissées. Mais cela reste la même œuvre et que les deux font écho l'un à l'autre. Les humains, c'est bête terrible. Sydney a écrit le roman « Pump », un recueil de récits interconnectés. Intitulé « Le Marais » en français, ce livre raconte l'histoire d'une petite ville ontarienne avec une réserve d'eau contaminée. Celle-ci provoque un changement alimentaire chez les castors de la ville. Ils se mettent à manger les humains. Mais les humains sont de terribles bêtes aux yeux de Sydney. Donc, ce n'est pas grave. Sydney aime parler des petites villes parce que l'artiste a grandi dans une petite ville. Avec une lentille habituellement centrée sur les petites communautés pastorales, comment démontrer que les gens queer ont toujours existé dans ces petites villes? Ce n'est pas en écrivant de manière isolée que j'ai pu entrer dans mon homosexualité d'une manière solidifiée. Plus j'écrivais, plus j'étais capable de partager des écrits, et cela m'a mis en contact avec d'autres personnes queer. La raison pour laquelle Sydney écrit autant sur l'identité queer dans les petites villes est que vous êtes souvent entouré de gens qui sont aussi comme vous dans un sens queer. Il y a donc beaucoup de passages, d'assimilation et d'agir, comme si vous étiez comme tout le monde, et sans le savoir, entouré d'autres personnes remplies de ces peurs et de ce sentiment qu'il n'y avait pas d'espace pour être soi-même, explique Sydney. Le besoin d'écrire sur l'homosexualité dans sa petite ville a permis à l'artiste de nouer des liens avec des personnes homosexuelles qui étaient toujours là. Et s'il y avait une troisième option, au lieu de rester et de faire semblant, ou de partir et d'être soi-même? Et s'il existait cette possibilité de faire de la place à des gens comme nous? Relève Sydney. C'était revendiquer son identité queer à travers la littérature. Un texte d'Aurore Mbonimpa, paru le 17 mai 2024 dans Le Voyageur, de Sudbury.
comprendre le statut géopolitique de l'Afrique à partir de l'expérience canadienne. Une chronique de Charlie Mbala, parue le 1er juin 2024 dans Le Franco, en Alberta. Selon une conception traditionnelle populaire dans les relations internationales, l'Afrique est généralement considérée comme une région périphérique. Ce statut lui a été attribué en vertu d'une théorie construite autour de la centralité du concept de puissance étatique. Du coup, les grandes puissances ont happé toute l'attention des internationalistes, surtout les internationalistes de droite, pour lesquels il était difficile de faire entrer l'Afrique dans leur grille d'analyse. Il aura fallu attendre l'émergence d'une nouvelle dynamique de pouvoir, qui prend en compte le rôle des acteurs dits périphériques, acteurs non étatiques et acteurs infra-étatiques, pour qu'émerge le concept d'agence, agency. Ce concept tourne autour des idées de capacité, d'influence et d'impact. Divers facteurs entreront également en ligne de compte, de telle sorte que même la notion de grande puissance mondiale intégrera désormais les aspects combinés de la hard power, capacité à contraindre, et de la soft power, capacité à convaincre, qui donne la smart power, selon la terminologie de J. Nye. La taille de l'économie, l'influence politique, la puissance militaire, le potentiel technologique, l'influence à caractère social et culturel, éducationnel, etc. Dans le cas du Canada, en examinant sa capacité à agir dans le but d'influencer les règles et les résultats de la gouvernance mondiale, nous pouvons élucider le rôle de l'Afrique dans le monde, dans un contexte particulier où les mutations récentes et en cours tendent à faire graviter ce continent de la périphérie vers le centre. Passons en revue la capacité de puissance et d'approvisionnement, l'identité et la gouvernance multiculturelle, le statut géoéconomique et les engagements internationaux, que nous considérons comme des déterminants objectifs et subjectifs de la soft power. Capacité de puissance et d'approvisionnement. Le Canada a-t-il ce dont le monde a besoin? Le pays est riche en ressources naturelles, pétrole, gaz, minéraux et eau douce. Bien que la gestion ou l'exploitation de ces ressources soit souvent sujette à caution, en raison des préoccupations environnementales, des droits des peuples autochtones et des répercussions économiques. Sa position stratégique le place dans une situation envieuse, tout comme celle qu'il occupe dans l'Arctique, région de plus en plus convoitée en raison de ses richesses et de ses voies de navigation potentielles. En raison de sa proximité géographique, le Canada est devenu un acteur incontournable dans les discussions relatives aux défis reliés à cette région. Comme le dit un collègue de la York University, Thomas Klassen, « In some ways, Canada is already a superpower. Its economic output is the 8th largest in the world. » La conversation, 2023. Il convient de rappeler que le Canada se hisse au 8e rang mondial, alors que les 7 autres pays qui le devancent en termes de puissance économique, États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, Inde, Royaume-Uni et France, sont plus peuplés que lui. Toute une leçon pour l'Afrique. Identité et gouvernance multiculturelle. Le Canada peut-il inspirer le monde? Avec plus de 450 origines ethniques ou culturelles, recensement de 2021, le Canada est reconnu pour sa diversité culturelle et son engagement envers le multiculturalisme. Cette diversité est non seulement une caractéristique sociale importante, mais aussi un élément clé de sa politique étrangère, qui vise à promouvoir le dialogue interculturel et à favoriser la coopération internationale. Bien plus, les questions de gouvernance, de droits territoriaux, de développement économique, la reconnaissance et la réconciliation avec les peuples autochtones sont devenus des enjeux fondamentaux pour ces vies nationales. Les partenariats avec les peuples autochtones ne relèvent plus des sujets marginaux dans ces négociations internationales sur des questions telles que l'environnement, les ressources naturelles et les droits des peuples autochtones dans d'autres pays, devenant même un critère pris en compte dans les évaluations des droits de la personne et des pratiques démocratiques par la communauté internationale. Engagements internationaux. Le Canada est-il présent dans le monde? Les ressources de la politique étrangère d'un pays, son empreinte diplomatique mondiale et sa contribution globale à la communauté internationale sont à la mesure de son engagement international. Cet engagement reflète essentiellement le niveau d'audience internationale, de collaboration de l'État et sa capacité à influencer les résultats des politiques. Parmi les indices permettant d'évaluer cet engagement, on retrouve le nombre de représentations diplomatiques établies à l'étranger, l'appartenance à des organisations multilatérales et le poids politique, sans oublier les contributions à l'aide au développement à l'étranger. À cet égard, le Canada est un membre actif de nombreuses organisations internationales, ONU, G7, G20, Francophonie, Commonwealth, etc. Sur la base d'un corpus de valeurs propres caractéristiques de son identité, il participe à la solidarité internationale et à diverses initiatives sectorielles et thématiques au niveau mondial. Canada-Afrique. Quel parallèle géopolitique! Peut-on trouver le sommeil si l'on dort avec un éléphant? Bien que le pays dispose d'énormes potentiels déterminants géopolitiques, le Canada dort avec un éléphant, pour reprendre Pierre-Éliott Trudeau, soulignant outre l'importance primordiale des relations entre les États-Unis et le Canada, mais aussi ses contraintes et ses impacts. L'Afrique que nous voulons, d'après l'intitulé de l'Agenda 2063, schéma et plan directeur de l'Afrique, est fondée sur son ambition de devenir une puissance mondiale en misant sur son statut de paradis sous terre, la rapidité de sa croissance, la diversification en cours de ses engagements internationaux et, surtout, son poids démographique. Avec 1,2 milliard d'individus, essentiellement jeunes, pour l'Afrique subsaharienne seulement, soit 29 fois la population canadienne, 41 millions d'habitants en 2024 selon Statistique Canada, le dividende démographique de l'Afrique, pour lui être stratégiquement favorable, devra être appuyé non seulement par des politiques de développement économique et social appropriées et audacieuses, mais aussi d'une gouvernance saine et légitime. Comme le Canada, l'Afrique regorge de tribus et d'ethnies, environ 3 000, d'après certaines études. Bien que les divisions et les frontières aient été érigées artificiellement par la colonisation, il reste que l'Afrique est d'abord multination et qu'à l'exemple d'un Canada soucieux de s'affirmer comme chef de file mondial dans le domaine du multiculturalisme, de la lutte contre le racisme, ainsi que l'éducation et la sensibilisation sur l'Holocauste, selon les mots mêmes de Mélanie Joly, alors ministre du patrimoine canadien, les pays africains pourraient rétablir la diversité ethnique et culturelle à des fins de soft power, dans un contexte où les conflits ethniques menacent la stabilité de la région. Au surplus, tout comme le Canada, l'Afrique dort, non pas avec un éléphant, mais plusieurs éléphants. Certes, la proximité n'y est pas toujours transfrontalière. Hormis le cas de l'Espagne, du Yémen ou de l'Arabie saoudite, l'Afrique doit néanmoins faire face à de nombreux défis, ayant au-dessus de sa tête les grandes puissances. Sa proximité avec les anciennes puissances coloniales comme le Royaume-Uni, la France ou la Belgique est souvent un prétexte au profit d'une influence politique et diplomatique prenant pour forme une interférence dans les affaires africaines, souvent avec la complicité de certains gouvernements africains peu prompts à affirmer leur souveraineté et leur indépendance politique. Amorcé depuis l'élan de construction d'un ordre continental, années 1990-2000, avec de nombreuses initiatives ambitieuses, nouveaux partenariats pour le développement de l'Afrique, Union africaine, sorte de voix de l'Afrique dans le monde, zone de libre-échange continentale, le processus d'affirmation de la puissance africaine est en marche. Il reste que l'Afrique, pour faire de son arme économique un instrument plus puissant que l'arme militaire au service de sa volonté d'affirmation sur la scène internationale, aura besoin davantage de cohésion et de cohérence, notamment en alignant ses pratiques de gouvernance nationale et internationale sur les valeurs qu'elle proclame. C'était « Comprendre le statut géopolitique de l'Afrique à partir de l'expérience canadienne », une chronique de Charlie Mbala, parue le 1er juin 2024 dans Le Franco, en Alberta.
Anglicisme. Pourquoi? Why? Un texte de Maxime Pedneau-Jobin, paru le 23 mai 2024 dans La Presse. Dans une récente étude sur l'état du français à la radio, la chercheuse Marie-Josée Olsen a noté que le recours, bien souvent évitable, aux anglicismes était omniprésent dans une majorité de cas. Une situation regrettable, estime notre chroniqueur. Quand nous défendons le français chez nous, ce sont toutes les langues du monde que nous défendons contre l'hégémonie d'une seule, disait Pierre Bourgault. Vous avez l'impression que la qualité de la langue n'est pas au rendez-vous quand vous écoutez la radio? Vous avez raison. Pour réaliser une étude rendue publique cette semaine, l'enseignante Marie-Josée Olsen, de l'École supérieure en arts et technologies des médias, ATM, du Cégep de Jonquière, a écouté 40 émissions matinales de radio publique et privée québécoise, analysant la qualité de la langue utilisée par 134 artisans de la radio. Conclusion? Anglicisme, jurons et mots familiers sont omniprésents. La chercheuse voit dans ce glissement vers une langue plus populaire une volonté de se rapprocher de l'auditeur. Les médias ne veulent plus être des modèles, mais des miroirs. J'y vois également de la paresse, un manque de culture et une certaine colonisation des esprits. Illustrons cela avec des exemples tirés de mes propres notes. L'émission « La journée est encore jeune » à Radio-Canada est un bel exemple d'un certain laisser-aller linguistique. Toutes les personnes dans le studio ont la capacité de parler un français impeccable. Pourtant, elles parlent de mon highlight de vie, plus grand moment, je file, je ressens un roast bien cuit, un hot seat, entrevue corsée, un citoyen random, qui dame citoyen lambda. Un vieux rapport poussiéreux de Radio-Canada, à propos de la qualité de la langue, rappelle que ce qu'on entend sur les ondes de la société d'État se diffuse rapidement et devient acceptable dans la société. À relire. Dans la catégorie « paresse », les exemples sont légion. À l'écrit, il est souvent évident que ni l'auteur ni les correcteurs n'ont fait d'effort minimal pour trouver un équivalent français. L'un des plus beaux films québécois de Coming of Age, on aurait très bien pu dire « film sur le passage à l'âge adulte ». En gros titre, « Des guns et des hommes » au lieu de « des armes ».« Escape room » au lieu de « jeu d'évasion », etc. À la télé, c'est un peu différent. Ce sont des mots anglais qui sont sans cesse répétés et qu'on laisse passer. « L'amour est dans le pré » pourrait inciter ses participants à remplacer « date » par sortie, rendez-vous, tête-à-tête, rencard, etc. L'émission « Le meilleur pâtissier au Québec » pourrait faire la même chose avec le mot « batch ». Fournée fait l'affaire depuis des siècles. À Survivor Québec, c'est « blindsided » qu'on pourrait remplacer par le tout à fait approprié « piégé ». À la défense de certaines émissions, je tiens à souligner la contribution de Novo qui, dans Big Brother Célébrité comme dans Survivor Québec, fait le sous-titrage français des mots anglais prononcés par les participants. C'est instructif pour tout le monde. À l'écrit, un chroniqueur s'excuse d'utiliser l'expression « You are damned if you do and damned if you don't » en arguant qu'il n'y a pas d'équivalent aussi fort en français. Ici, on parle de manque de culture. Un choix cornélien dit très exactement ça et donne peut-être le goût de lire Corneille. Par ailleurs, bien des médias ont la détestable habitude d'indiquer l'équivalent anglais quand on a très bien compris le sens de la phrase en français. Les élections de mi-mandat, midterms, auront lieu ce mardi dans les États susceptibles de basculer d'un camp à l'autre, swing states. Hillary Clinton soutient que la solitude a été utilisée comme une arme, weaponized, par Donald Trump. Il en reste donc un effet de paralysie et de dissuasion, chilling effect, qui avait de l'expérience respectivement en programmation, booking d'artistes. La portée publicitaire, AdReach, a baissé de 6 %, ce qui était autrefois les laboratoires d'entreprise, corporate labs, etc. Cette détestable habitude vient du fait qu'à force d'utiliser un terme en anglais, il devient, pour l'utilisateur, le seul mot qui traduise vraiment bien le concept, ce qui est tout à fait faux. Le Devoir nous en a récemment donné un autre bel exemple en publiant un long article sur les traumavertissements, tout en insistant pour utiliser l'acronyme TW, Trigger Warning, tout au long du texte. Misère. Pris un à un, chacun de ces exemples n'a aucune importance. C'est leur somme qui fait mal. Je suis d'ailleurs certain que cette absence d'effort en matière linguistique n'est pas étrangère à la perte de crédibilité des médias. Si on ne s'impose pas de normes sévères sur la qualité de la langue, pourquoi en aurait-on sur le reste? Quand j'étais jeune, il était ridicule de penser qu'un jour, nous utiliserions un mot français au lieu de « bumper »,« wiper » ou « tire ». Grâce à l'Office québécois de la langue française, au travail de bien des employeurs et de bien des syndicats aujourd'hui, pare-choc, essuie-glace et pneus, des mots consacrés en anglais, disait-on à l'époque, ont aujourd'hui repris leur place. La défaite linguistique n'est pas inéluctable. La culture anglo-américaine est la principale menace à la diversité du monde. Il faut mener la bataille, un mot à la fois. C'était Anglicisme, pourquoi why, un texte de Maxime Penneau-Jobin, paru le 23 mai 2024 dans La Presse.